Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut messieurs, je vous laisse une petite voice parce que Didier Poulmer, qu'on a eu lors du dernier épisode, nous a donné une idée d'invité, à savoir Jérémy Chatonnier, qui est le président des Socios France, la toute nouvelle fédération qui réunit tous les Socios et clubs de Socios français. Et je me disais que ça aurait été pas mal de l'inviter pour en savoir un peu plus sur ce modèle-là et essayer de le challenger et le défier un peu pour savoir si est-ce qu'un club peut être vraiment, rationnellement, dirigé par ses supporters. Dites-moi si ça vous botte et je le contacte.
Écoute, très chaud. Moi, tu me connais dès qu'il s'agit des supporters et de leur implication dans leur club, quel que soit le format. Je suis toujours très intéressé. Donc, très chaud pour rencontrer Jérémy et puis comprendre un petit peu ce que ça veut dire, le socios à la française. Donc, dis-moi quand tu as booké le studio et puis on se voit là-bas. Allez, à très vite. Je t'embrasse. Ciao.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alternative Football avec une table qui est au complet. Il y a l'absence d'Edouard
si c'est quand même une absence notable.
On reçoit Jérémy Chatonnier, qui est le président de la Fédération des Socios de France, mais aussi des Socios Verts pour l'AS Saint-Etienne. Donc bienvenue sur le podcast Alternative Football.
Et merci beaucoup de l'invitation, je suis ravi. Et puis merci à Didier de vous avoir soufflé mon nom et mon prénom.
Et puis on va quand même noter quelque chose, Maxime, c'est que pour l'instant c'est notre meilleur invité. Pourquoi ? Parce qu'il a amené les croissants.
Il a amené.
C'est le premier à le faire. Donc,
on peut le souligner.
Voilà, on peut le souligner.
Edouard n'est pas là, mais Edouard a une première question, qui est la question habituelle, qui est de savoir c'est quoi ton rapport au foot ? D'où ça remonte à quand ?
Mon rapport au foot, on va dire, j'ai tout de suite été très mauvais. Hein, on va pas se mentir. Donc, pour moi, c'est pas tant le jeu au final, c'est vraiment le supporterisme. Je pense que je suis un supporter et ça a commencé tout petit parce que mon père, il tenait un bar-restaurant dans un tout petit village dans l'Allier. Donc, forcément, j'allais. En plus, l'équipe qui jouait dans mon village, il y avait 11 frères dedans. Donc
d'accord.
C'est assez particulier. Donc il y avait 11 frères qui
sur le
jouaient.
Terrain.
Ouais, sur le terrain, ils jouaient tous ensemble. Donc tous les dimanches j'allais voir cette équipe là jouer.
C'était quoi notre famille?
La famille Pitalo.
OK. Ouais,
la famille Pitalo.
Et c'était quoi le club, parce que ça m'intéresse pour
le Breton.
Ça
c'est un super sujet.
C'est un sujet sur foot ça.
Ouais. C'est un sujet sur foot. Ouais. Avec plaisir, je vous donnerai.
C'est quoi le club du coup?
Le Breton.
Le village s'appelait Le Breton.
Le village s'appelle Le Breton dans l'Allier. Ouais.
Okay.
Mon père tenait justement ce bar-restaurant et du coup, à l'époque, il n'y avait pas de club house. Hein, ouais. C'était pas comme ça. Donc, où est-ce qu'ils allaient en troisième mi-temps?
Au resto.
Au bar, resto.
Qui s'appelait?
Le Café des Sports, je crois.
Ok.
Ouais, le Café des Sports du Breton. Et du coup, forcément, je vivais au rythme de cette équipe. Et puis un jour, mon père m'a dit, tiens, parce qu'à l'époque, c'était, je crois que ça va te faire plaisir, ça c'était la grande équipe du Paris Saint-Germain, avec Rai, avec Marco Simonet.
Ouais.
Et puis, il y avait le tout nouveau Stade de France qui s'est construit.
D'accord.
Et du coup, ils m'ont emmené pour mon anniversaire à la finale Paris Saint-Germain RC Lens, gagnée par
Coupe
Paris
de la Ligue.
Ouais. Donc en Coupe de France.
En Coupe de France.
C'était la première finale de Coupe de France là-bas. Et du coup, moi j'y suis allé. Juste avant, en Grand Bordella, il y avait une petite équipe en vert qui jouait. Mm-hmm. Le COP Lensois s'est mis debout. Il y avait une cinquantaine de Stéphanois qui se sont mis à craquer des fumigènes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce club? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je suis tombé raide dingue de l'un des amours de ma vie. Hein, mais c'est l'AS Saint-Etienne. Et puis franchement, c'est le supporterisme en premier. Le jeu, évidemment, mais je pense que quand même le supporterisme, c'est mon lien le plus fort avec le foot.
Et du coup, ça veut dire quoi, parce qu'on va faire la transition, ou comment du supporterisme, tu es tombé dans l'actionnariat populaire, qui est moins connu que le terme socios. Comment t'es tombé là-dedans? À partir de quel âge comment t'en as entendu parler? Pourquoi tu t'y es intéressé?
Bah, très tôt, en fait, je me suis intéressé à l'actionnariat populaire. Moi, j'aime beaucoup les belles histoires dans le foot, donc j'étais abonné pas mal de temps à SoFoot.
Deuxième bon point, en plus décroissant.
Il a dit « j'étais abonné
ouais, ». J'étais abonné. Ouais, c'était au passé, ouais.
Et du coup, ouais, donc forcément, ces belles histoires-là m'ont amené un petit peu à ceux qui ont sauvé les clubs à un moment donné, donc... Ouais. Donc, l'actionnariat populaire, notamment en Angleterre. Et puis, du coup, de là, j'ai commencé à tirer le fil, on va dire. Ah bah tiens, il existe le modèle allemand, il existe le modèle espagnol, il existe le modèle anglais, il existe tout un tas de sortes de modèles. Et puis, bah, forcément, au fur et à mesure du temps, le Sporting Club de Bastia est tombé très bas. Et d'un coup, il y a eu un appel pour le sauver, et là du coup presque instantanément existait le modèle français, et là du D'accord. coup forcément je me suis tout de suite intéressé au modèle français, ce qui allait ouais. se passer, comment ils allaient faire pour justement réussir à sauver le club sous l'impulsion de Luc Dayan, et du coup bah voilà comment je suis atterri dans l'actionnariat populaire français.
Et alors du coup tu nous as donné pas mal de modèles que tu as listés. Est-ce que avant qu'on s'intéresse particulièrement au modèle français qui a donc commencé en Corse, tu vois, ça je ouais. savais pas. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de chaque modèle, les différences, celui que toi tu juges comme étant soit le meilleur, soit le plus efficace, soit qui te parle le plus? Est-ce que tu peux nous donner une grille de lecture de ces différents modèles d'actionnariat populaire?
Bah, il y a le premier qui existe, je pense que vos auditeurs ils connaissent, c'est le modèle espagnol. Mm-hmm. D'ailleurs, on s'appelle Fédération des Socios de France, aussi parce que ça impacte beaucoup les gens, forcément, le terme socios, donc ça vient de là.
Oui, tu dis socios, ils connaissent, en ouais. tout cas, ils ont une idée de
ouais,
ce que ça peut être.
Ils identifient bien comme il faut le modèle. Donc du coup, forcément, le modèle espagnol, c'est un modèle très démocratique, où c'est qu'il y a un dirigeant qui est élu pour un mandat donné, donc qui fait des promesses, qui est notamment sur des choses sportives, ouais. sur un projet sportif. Donc par exemple, moi, si j'ai le bonheur d'être élu, je vous ramène Messi, je vous ramène Dembélé, enfin, ouais. Et donc il fait des promesses sportives.
Ouais. Ça fait penser, je sais pas si tu l'as vu, le reportage sur Netflix sur Figo, où en fait, tu vois, Florentino Pérez fait une campagne en disant, je vais aller chercher, Figo, qui est à l'époque la star du Barça. Enfin, ça, c'est effectivement en Espagne, ça me paraît très lié au sportif.
Totalement. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est le modèle espagnol.
Ouais.
Donc qui aussi sur des infrastructures club, quand même. Ouais. Là, on le voit avec la reconstruction du nouveau Camp Nou ouais. et puis
et Madrid avant.
Ouais, du Bernabéu. Ouais. Donc bon, aussi sur de la structure, mais quand même, je pense qu'ils sont principalement élus sur le modèle sportif.
Et du coup, quand tu dis structure, c'est-à-dire que même pour le stade, tout passe par le vote.
Ouais,
tout passe par vote. C'est
ouais,
ça, en fait.
Ouais, c'est très démocratique là-bas. Après, il faut que ce soit validé par les socios, même les plans comptables. Donc vraiment, ils ont beaucoup de pouvoir, on va dire, les socios. Donc plein de choses pour. Ils ont plein de comment dirais-je de
d'outils.
Ouais, d'outils. Voilà, merci. D'outils pour justement faire voter et puis justement influer sur les grandes décisions de leur club. Après, vous avez le modèle allemand. Mm-hmm. Donc le modèle allemand, il est beaucoup plus structurel au final. Alors certes, moins sportif, mais beaucoup plus structurel. Voilà, où c'est que vous avez la fameuse règle du 50-1, donc le club appartient en priorité à ses supporters, sauf exception, qu'il D'accord. existe.
Ouais.
Il existe 2-3 exceptions en Bundesliga.
Par exemple, le Red Bull Leipzig,
voilà,
par exemple.
Voilà, okay. voilà, tout à fait. Et ouais. puis, donc là, c'est beaucoup plus structurel, parce que c'est le modèle allemand, en fait, c'est le club, c'est vraiment... Alors oui, le sportif a une part très importante, mais quand même, c'est très structurel.
D'accord. Voilà.
C'est vraiment sur comment on va faire.
Les notions économiques, les financements.
Tout à fait. Okay. Et puis aussi, c'est vrai qu'en en Allemagne aussi, c'est même s'il y en a en Espagne, c'est quand même des clubs qui sont très grands et très multisports. Hein. Vous n'avez pas uniquement le Bayern Munich. Enfin voilà, vous avez vraiment des clubs multisports. Donc voilà, plus structurel. Après, vous avez le modèle anglais.
Je te coupe juste avant le modèle anglais. Si tu peux nous donner un exemple, on parlait en préambule justement avec Café Croissant un peu du Bayern. Et je trouve que c'est un exemple intéressant. C'est-à-dire que le Bayern, ils ont à peu près 60% qui est détenu par les supporters. Donc tu as la fameuse l'arrêt du 50+5 qui est respecté. Et derrière, comme c'est quand même un club qui est énorme avec des vrais enjeux structuraux et économiques, ils ont aussi 4 grandes entreprises ou 3 grandes entreprises, des multinationales qui...
3, oui. Ouais, trois, ils ont Audi, Allianz, c'est le troisième. Audi, Allianz, c'est...
On va retrouver, on va regarder sur le téléphone.
On en a parlé
tout à l'heure, tu nous l'as dit, mais c'est pas très grave. On va retrouver.
Et en fait, je reprends cet exemple-là parce que en fait, ça a l'air d'être une rencontre parfaite entre le garant de l'identité club qui est l'identité supporter et derrière des boîtes qui ont quand même la manne économique pour financer.
Adidas, bien sûr.
Donc je pense qu'on reviendra à cette notion d'équilibre entre le besoin économique et le besoin culturel, d'identité, etc. Et donc je t'ai coupé au moment où tu allais nous parler de l'Angleterre.
Eh bien l'Angleterre, c'est des trusts généralement qui se montent très rapidement. Généralement quand le club est en difficulté, au final ça ressemble un peu à ce qu'on fait en France au final, sauf que le ticket des fois d'entrée est assez élevé.
Ouais.
Mais au final tout de suite, en gros, on se mobilise très vite pour sauver le club. Donc voilà, c'est plein de parties qui se mobilisent dans une entreprise vraiment définie et qui après du coup rachètent le club ou le sauvent, donc ils le prennent au tribunal de commerce, ni plus ni moins.
Alors c'est la première chose que je remarque, c'est que en gros si je déchiffre de manière assez grossière, le modèle espagnol, le modèle allemand, c'est pas lié forcément à un club qui est en difficulté, alors que l'Angleterre et la France, que tu nous dis, c'est quand même relativement impulsé par un club qui coule, qui a un problème de gouvernance.
Parce qu'il y a toujours des contre-exemples.
Ouais. c'est pas drôle.
Sinon, c'est pas drôle, effectivement. Bah, par exemple, là, je pense au projet des Calons de Guingamp,
ouais.
qui sont à l'heure actuelle, qui sont capitale du club, et qui, eux, ont été impulsés par le club, quand le club n'était pas du tout en difficulté.
D'accord.
Donc après, ils se sont servis, je parlais des structures et des infrastructures, ils se sont servis de l'apport des Calons, notamment, pour bien refaire leur centre d'entraînement, leur centre de formation.
D'accord.
Voilà, leur rapport au capital. Ouais. Donc, c'est à ça, des fois, que ça peut servir comme levier.
Et qui sont là, pour le coup, là, tu es dans le structurel.
Totalement. Dans le développement structurel de nos clubs, en fait.
Et ils ont fait appel à eux juste d'un point de vue financier ou même ils ont fait appel à eux pour imaginer le futur centre de formation, pour être dans la gestion décisionnaire et autres. Ça va plus loin que juste l'apport financier.
Moi, je pense que là-dessus, sur les Calons de Guingamp, ils n'ont pas forcément eu besoin d'avoir la philosophie propre de comment allait être structuré le centre de formation. Par contre, derrière, ils ont imaginé, à l'époque, de mémoire, ils ont imaginé vraiment les Calons comme une sorte de fondation qui allait vraiment aider le tissu local associatif.
Okay.
Et ça, c'est très très intéressant aussi. C'est quelque chose que l'actionnariat populaire peut aider énormément. C'est faire le bien autour de soi aussi via le football et via la fondation du foot. Mmh. Et ça, c'est très 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 intéressant.
Parce que tu dirais que les Calons ont un tissu local par les gens qui font partie. Parce que ils sont combien, tu sais à peu près combien ils sont?
C'est une centaine. Ils sont 17 000.
Ah, ils sont 17 000.
Ils sont 17 000 Calons.
Ouais. Ah, donc ça représente 17 000 personnes qui connaissent autant d'autres personnes et qui du coup infusent un peu
Le modèle de l'actionnariat populaire en France, malgré le fait qu'on dise qu'on est des utopistes et puis qu'on est des doux rêveurs, etc., il y en a partout dans le monde en fait. Quand vous regardez les socios Étoile Club Bastia, Guingamp, Sochaux, vous en avez partout en fait. Partout. Rien que Guingamp et Sochaux, je crois qu'on est à 28 000 personnes.
Ouais. Et puis, c'est encore une fois, on en parlait rapidement en préambule en marchant vers le studio, mais tu nous as même donné un exemple. Il y a des socios il y a de l'actionnariat populaire en
NFL.
NFL.
Ouais, tout à fait.
Les Green Bay Packers, qui en plus est un vrai gros club et une marque internationale.
Ah, c'est une grosse marque.
Et ça paraît entre guillemets incroyable parce que tu as la NFL qui est le sport business à son paroxysme avec la notion de franchise, etc. Et dans l'une des franchises les plus populaire, en fait, un actionnariat populaire. Donc c'est
fou, hein.
Ouais, et puis ça veut aussi dire que
et ça fonctionne.
C'est ce que j'allais dire. En fait, est-ce que c'est pas un des éléments dont toi tu peux te servir pour dire non mais écoutez, vous pouvez nous traiter de rêveurs.
Totalement.
Mais en fait, c'est pertinent parce que à l'échelle du sport business, ça fonctionne et on a des exemples concrets même dans les sports les plus capitalistes du monde.
Ah mais totalement, ça on s'appuie dessus et on essaye de travailler justement au quotidien en disant regardez, même dans la ligue la plus fric du monde où le dollar est roi, il existe ce genre de modèle d'actionnariat populaire. En plus, si on se renseigne vraiment comme il faut sur la ville de Green Bay, elle est toute petite comparée aux autres acteurs majeurs de la ligue. Alors apparemment, je crois que c'est la première, c'est les Dallas Cowboys, ouais. la première franchise la plus aimée aux États-Unis. Et je crois que les Green Bay, ils arrivent juste en dessous.
Ah ouais, non, mais
c'est hyper populaire. Vraiment incroyable, c'est hyper populaire.
Et du coup, c'est pas une franchise, c'est le seul club qui de la NFL, franchise. Parce que du coup, ils peuvent pas bouger de ville. Enfin,
ils ne
peuvent
pas être transférés. Et ce pont entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, moi, je le trouve merveilleux au final. Vous avez plusieurs, au final, vous avez plusieurs franchises qui évoluent dans les différents, on va dire, ligues majeures des États-Unis, qui peuvent être assimilées à nos clubs en France. Vous voyez ce que je veux dire, à nos clubs européens. On ne pourra jamais les bouger, par exemple, les Montréal Canadiens. C'est impossible.
Oui, oui.
C'est un Montréal, point. Pareil pour les Packers, c'est pareil pour les New York Yankees. Donc au final, c'est intéressant de voir le pont qu'on peut faire entre le modèle social, ce qui est aux États-Unis et comment il fonctionne, etc. Comment ils le font fonctionner et comment ça marche, parce que ça marche, hein, ils font d'énormes bénéfices en NFL. Et comment nous, on peut s'inspirer de ce modèle-là et puis dire, voilà, on n'est pas forcément des debout rêveurs, on n'est pas des illuminés. Il existe des modèles partout dans le monde qui fonctionnent et qui sont vérifiés et vérifiables. Et en plus, en France, il en existe maintenant, on a les outils juridiques. Ce qui est important, ça c'est très important ce facteur-là, parce que avant, on n'avait pas forcément les outils juridiques pour faire les choses en France. Là, Bastia, ils ont tout changé. Maintenant, on a les outils juridiques nécessaires pour mettre en place ce modèle d'actionnariat populaire en France dans nos clubs de football.
Qu'est-ce qu'ils ont changé ? C'est quoi l'outil juridique, ouais ?
Par exemple, la SIC. C'est très simple. Avant, il n'existait pas ce modèle d'entreprise coopérative. Donc, c'est très dans l'air du temps, hein, coopératif. Et avant, ça n'existait pas. Maintenant, il existe ce modèle coopératif qui, en plus, vous permet de faire rentrer au capital des collectivités locales qui sont bien souvent oubliées, les grands oubliés, au final, des collectivités locales. Alors que les collectivités locales, il ne faut pas oublier que c'est elles qui gèrent les stades. Donc, si vous avez un patron, on va dire, un patron de nos clubs qui décide, par exemple, de ne pas écouter sa collectivité locale qui gère le stade, en gros, c'est paye un peu et tais-toi, et ça, c'est de l'argent public. Tandis que avec une structure socios, là, qui est à haut capital, là, elle pourra dire, attention, moi, je suis aussi ton partenaire économique, je ne suis pas ton égal parce que je n'ai pas autant de pouvoir décisionnel que toi, je n'ai pas autant de parts, mais par contre, je fais partie quand même du jeu, et ça serait important que tu m'écoutes. Et ça, c'est quand même un rapport qui est quand même un peu différent, parce qu'il gère vraiment des infrastructures que le club utilise. Et ça, c'est quand même très important. Et surtout, c'est de l'argent public. Il ne faut pas oublier que c'est ça aussi, c'est de l'argent public. Et c'est très important aussi d'écouter, je pense, nos collectivités. Donc la SIC, elle permet vraiment de rentrer avec différents collèges, donc les supporters, les anciens joueurs. Est-ce qu'on écoute assez, dommage que Edouard ne soit pas là, est-ce qu'on écoute suffisamment les anciens joueurs? Est-ce qu'on peut dire, tiens, sur les lois du jeu, sur comment un arbitre, éventuellement, comment les arbitres, comment on peut faire sur
interagissent,
même sur les carrières, sur l'après-carrière. Est-ce qu'on les écoute suffisamment sur la préparation presque mentale qu'il faudrait pour assimiler une retraite
Écoute, la réponse est clairement non. On a fait un épisode, le dernier épisode, j'étais avec Ricardo, Fati et Edouard, et c'était justement un des points.
Nous, clairement, si par exemple on a une structure qui permet cela, il y aura peut-être différents acteurs qui pourront dire attention, les anciens joueurs nous disent attention, là on va avoir d'ici quelques années des anciens joueurs qui vont prendre leur retraite. On peut organiser une structure interne aux sociétaires pour dire préparer nos anciens joueurs de tel club. Moi, je pense forcément à la Saint-Etienne, alors après-carrière. On peut tout imaginer, en fait. On peut avoir des sous-structures à l'intérieur des structures et du coup, pouvoir travailler pour, en fait, préparer au mieux humainement l'intégralité des acteurs du territoire. Et ça, c'est très important.
C'est très intéressant ce que je dis, parce que, justement, quand on a fait un petit peu la remédiation à la fin de l'épisode précédent, on se disait, mais OK, donc il y a un besoin identifié sur le fait de mieux préparer le footballeur à son après-carrière, mais en gros, qui a autorité, qui prend le... C'est-à-dire, on a parlé NFP, on a parlé club, on a parlé ligue. En fait, ça peut venir de là aussi.
Exactement.
Et j'ai envie de te dire, dans ce que tu évoques, en fait, l'actionnariat populaire, il permet, en fonction du besoin du club, d'apporter la solution qui ne peut pas être intrinsèque forcément au club. Donc c'est pas... En fait, c'est pas... Et je pense que le travail éducatif, il est peut-être là. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que le socios pour les Français, c'est un Espagnol qui peut voter pour un président. Mm-hmm. Parce que le président lui a promis Figo ou Ronaldinho ou qui tu veux. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est en vrai, non, c'est un vrai siège. C'est un vrai siège sur l'ensemble des sujets qui peuvent concerner le club. Et le sportif, effectivement, c'est ce qui nous fait rêver. C'est la partie...
C'est la fibre.
Ouais.
Mais, ce qui nous fait vibrer, le sport en premier, évidemment.
Mais le sportif ne sera jamais aussi fort que quand les bases sont solides. Et totalement. En fait, c'est là que vous vous placez, vous. C'est vraiment sur la solidification des bases.
C'est ça, être un partenaire de nos clubs. Nous, okay. ce qu'on désire vraiment, c'est être un partenaire identifié, identifiable, reconnu. Mm-hmm. De nos clubs pour améliorer ces structures, être une vraie plus-value, être une valeur ajoutée en fait, rajouter quelque chose, notre pierre à l'édifice, à la structure club. Et c'est ça qui est très important.
Alors tu nous parlais du fait que vous êtes taxé de doux rêveurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ton bloqueur le plus important, c'est celui-là? C'est-à-dire que quand tu rencontres les clubs, quand tu parles aux supporters qui ont envie de se structurer, quelle est la barrière que tu as à la création ou à l'acquisition de la crédibilité? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe quand tu
De toute façon, le premier contact avec les dirigeants au début, c'est vrai qu'il se fait pas forcément avec méfiance, mais on se dit, tiens, il existe un nouvel acteur, forcément, hein, qui sont ces nouveaux acteurs, qui sont-ils, que veulent-ils exactement? En plus, vous imaginez, vous êtes propriétaire d'un club, et puis d'un coup, vous avez des gens qui viennent, et puis qui vous disent, ben, on aimerait rentrer au capital du club. Donc forcément, qui sont-ils, ouais, hein, avec
ils sont méfiants,
tout,
ouais.
Ouais, tout l'environnement qui existe autour d'un club de football, dont certains, il faut le dire, terme des fois des escrocs qui veulent profiter de la manne médiatique d'un club de football. Et puis après, ben derrière, vous travaillez. Donc vous rencontrez, vous expliquez le projet. Donc forcément, pas forcément de méfiance, pas forcément de défiance, mais des interrogations. Donc on vous interroge et puis après, vous travaillez sur le fond. Et une fois que vous travaillez sur le fond, en fait, ils observent ce que vous êtes en train d'évoluer. Et ce qui est marrant au sein de l'association, on a des groupes qui sont pas encore au sein de la Fédération des Socios de France et qui, elles, ont décidé philosophiquement de travailler en commun avec le club sur certains sujets pour justement, à un moment donné, dire « Voilà, nous, on vous a apporté ça. Voilà, nous avons prouvé que nous étions en capacité de gérer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. »
T'as des exemples ?
Je peux pas trop.
Parce qu'ils sont pas dans le.
Parce qu'ils sont pas dans la fédération, okay, ils sont, ouais, pas affiliés.
Ok.
Mais ils ont décidé de travailler sur des fondamentaux et pour avant.
Mais ça peut être par exemple le centre de formation, ça peut être. Ça pourrait être la culture club.
Voilà,
ça peut être
ouais, exactement, okay. La culture club, par exemple, okay. Faire des musées éphémères, faire tas de choses.
C'était
voilà.
Juste pour.
Pour faire de la culture club, pour faire de la pédagogie ou sur eux ce qu'ils peuvent apporter.
Ok.
Et puis après, on va dire voilà, on a réussi à faire ça. Vous voyez ce qu'on est capable de faire, donc voilà. Et après, il y a d'autres choses. Il y en a d'autres qui sont qui font beaucoup de pédagogie. Hein, c'est notamment le cas de mon association, ouais. Donc les Socios Verts, qui fait beaucoup de pédagogie, qui travaille avec des associations locales pour justement faire que notamment des enfants passent un meilleur Noël ou montrer à des enfants le musée des Verts et leur dire voilà quelle est l'histoire de la S Saint-Étienne. Ouais. Ça, c'est très important. Voilà, c'est très important.
Ouais. Dans le rôle social social du club.
Exactement.
C'est-à-dire le club en tant qu'acteur.
Et une fois qu'on a travaillé sur ces fondamentaux, qu'on a prouvé, et puis que surtout, on est là sur la durée.
T'as montré pas de blanche, quoi. T'es obligé de montrer pas de blanche au début.
Exactement. Tout à fait. Et pourtant, il y a des gens de très haut niveau qui sont au sein de nos associations. Mmh. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que on monte pas de blanche, et après, derrière, il y a une relation de confiance qui s'instaure naturellement, et on devient au fur et à mesure partenaire. Alors après, évidemment, il y a des mots... tu parlais de comment on fait pour devenir socios, ça c'est sur le modèle, un petit peu, on va dire, parce que même le modèle Calon, ça vient du club, donc c'est le club qui a décidé que l'actionnariat populaire soit au sein du capital du club. Donc là, c'est un modèle totalement différent, c'est eux qui ont décidé, donc ils mettent en mesure le certains aspects. Et puis, il y a ceux, tout simplement, qui sont en difficulté. Et là, il n'y a pas le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe
Sochaux récemment.
Sochaux, ouais, par exemple, Sochaux, Bastia. Le club est en difficulté. OK, comment on peut faire pour le sauver? Et tout de suite, ce qui se passe, c'est que la force de frappe des supporters, la force de mobilisation fait que directement, le club est presque instantanément sauvegardé, en fait. À partir du moment où le club a été acté que ça se passerait comme ça et que ça, effectivement, on accepte que l'actionnariat populaire au sein du club, c'est exponentiel. C'est exponentiel et ça va très vite.
Et alors, il y a une question qui me vient. On a pour l'instant parlé de Bastia, de Saint-Etienne et de Sochaux. À chaque fois, on parle de clubs avec une base de supporters très forte, très impliquée et des mouvements ultra assez importants. Comment vous vivez, échangez avec les ultras? Est-ce que c'est assez naturel parce que, en gros, les objectifs sont partagés? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des zones de friction? Parce que la relation club-supporter, parfois, elle peut être aussi un petit peu une prérogative des ultras. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là?
Bah, sur le mouvement ultra, je pense que chaque club est différent au final. Ça, ça a été bien défini lors de notre table ronde un peu au Paris Université Club au mois d'octobre. C'est vrai que du coup, on parle de fédération, mais chaque entité doit garder et conserver son ADN en fonction de son territoire, de ses partenaires économiques, de son ADN tout court, en fait, de ce qu'il est. Donc, chaque projet socios ne sera pas identique. Hein. On ne peut pas faire un projet socios à Sochaux, comme on va le faire à Bastia, comme on va le faire à Rouen, par exemple. Non, pas du tout. Chaque projet est bien dans sa structure en fonction de son territoire. Forcément, la culture ultra de Sochaux n'est pas forcément la même que celle de Bastia.
N'est
pas la même que celle de Rouen, etc. Donc moi, je peux parler de ce que je connais. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les ultras. Jamais. Voilà, on a un rapport de confiance. Ils sont effectivement comme des dirigeants. Hein? C'est-à-dire, qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est un peu logique, en fait. Hein? Donc, une fois qu'ils nous ont vus travailler à l'œuvre, et surtout, encore une fois, dans le temps, moi, j'ai pas de. Il n'y a pas de problème, en fait. Ils sont là, ce sont des supporters des clubs, en priorité. Un supporter ultra est un supporter de football en premier. Donc, il n'y a aucun. Moi, j'ai pas de souvenir d'une problématique avec les ultras. Quoi.
Mais est-ce que c'est facile de leur faire comprendre que. Parce que tu parlais. Dans les discussions qu'on avait un peu avant, tu disais que le modèle le plus vertueux, en gros, celui que toi tu préférais, pas au titre personnel, pas au titre de président, c'était le modèle allemand, puisque on n'était pas trop sur la logique sportive et que du coup, on s'intéressait moins au sportif qu'à la structure, qu'au centre de formation, qu'aux féminines, qu'à d'autres questions qu'au bilan financier. Mais est-ce que c'est facile, du coup, de faire comprendre à un supporter que dans ce mouvement socios, c'est pas ça qui, enfin, ce qui est pas intéressant, c'est, enfin, ce qui est intéressant, c'est le reste, quoi. Et de comprendre que de la structure du club, de sa gestion, de toutes les actions que vous allez mettre en place, peut-être que ça aura un impact sur le sportif. Et parce qu'il va se dire, ouais, mais moi, ça m'intéresse pas les comptes, enfin, si je caricature, hein, mais ça m'intéresse pas les comptes, je m'en fiche un peu. Enfin, tu vois, c'est vrai que quand on est passionné d'un club, on s'intéresse qu'au sportif, on s'intéresse pas à tout le reste. Mais c'est ce qu'on essaie de prouver avec Alternative Football, c'est que c'est tout le reste qui a un impact finalement sur ce qui se passe sur le terrain.
Les ultras sont comme des supporters normaux, en fait. Il y en a qui vont vous dire, écoute, ça m'intéresse pas, moi, je vais pas, ça m'intéresse pas du tout. Puis il y en a d'autres qui vont dire, effectivement, c'est très intéressant votre démarche. Globalement, ce sont des fans vraiment du club en lui-même et je pense qu'ils sont quand même très très intéressés par la structure propre. C'est un peu philosophiquement la continuité du mouvement ultra d'être socios au final. Ouais. Le club nous appartient un petit peu, donc voilà.
L'ultra, c'est un peu l'identité spirituelle,
ouais,
si tu
exactement.
Veux. Mais derrière, le socios, c'est l'identité réelle, ça se construit, ça a des parts. Donc c'est pour ça, ma question venait là en fait, c'est quand même. La philosophie globale et le but m'ont l'air quand même assez proches. Et c'est pour moi, ça apparaît du coup comme des interlocuteurs, privilégiés et hyper pertinents. Mais c'est aussi, on avait fait un super épisode avec
Nicolas
Orcade sur le sujet. Mm-hmm. C'est aussi un mouvement qui est relativement codifié, avec aussi des objectifs qui peuvent diverger. C'est bien souvent un contre-pouvoir. Alors que quand tu es socios, tu deviens... Et que tu fais partie, si tu veux, t'es engagé dans le club, tu deviens, t'es pas contre-pouvoir, mais t'es une partie du pouvoir. Donc c'est comment ça peut vivre. Mais d'après ce que tu nous dis, ça se fait de manière relativement saine.
C'est naturel.
Ouais.
Et puis sur certains clubs en difficulté, tout de suite les supporters se mobilisent, peu importe qui ils sont.
Parce que là il y a un enjeu qui est plus grand que.
Exactement. C'est la sauvegarde
du club.
Là par exemple, quand on est un ultra de Sochaux notamment et qu'on voit son club en difficulté. difficulté, on veut le sauver en priorité. Et du coup, la structure devient presque plus importante que le sportif. On comprend tout de suite l'intérêt de, du coup, c'est dans ces moments-là qu'on comprend que la structure financière, notamment, est très importante dans un club de foot. Donc, on pense pas aux sportifs, on pense plus aux sportifs, on pense à conserver son bien commun. Ça, c'est très important aussi, cette notion de bien commun, qui est le club et l'entité sportive. Donc, du coup, forcément, on va essayer de préserver le bien commun et après, on verra ce qui se passe au niveau sportif pour justement faire qu'on ait les meilleurs résultats possibles.
Et est-ce que tu peux nous parler du cas de Sochaux, par exemple? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le club a pu être sauvé? Et comment l'actionnariat populaire a permis ce sauvetage?
Sochaux, alors je ne vais pas parler à leur place.
Sochaux,
Sochaux, ce qui est très intéressant de voir quand on est un acteur un petit peu comme moi, observateur, du coup, forcément de l'actionnariat populaire, on observe très vite qu'en fait, ils se sont mobilisés très tôt. Donc, c'est-à-dire que leur projet, il date de 2016. Donc là, on peut faire des ponts avec des projets comme Socios Vert. Donc 2016, hein, quand même, ça fait 8 ans.
Ouais.
Socios Vert a 2 ans, par exemple. Donc du coup, ils ont réussi à philosophiquement avoir la trame de ce qu'ils voulaient décider une fois si un jour le projet Socio-Show allait voir le jour.
Ok.
D'accord. Donc quand y est arrivé le drame, quand y est arrivé le moment de rupture, là, ils étaient prêts, en fait, philosophiquement. Donc ça leur a permis tout de suite de mobiliser très vite, de pouvoir mobiliser très vite, très rapidement tous les acteurs, vu qu'ils avaient travaillé avant. Tout le travail accumulé, on va dire, pendant des années a permis de sauver le club très vite. Et donc, ils ont fait la promesse, leur levée de fonds, hein, je ne sais pas si on peut le dire, mais chez Elo Asso. Donc ça a été très très rapide, ils avaient les partenaires, etc. Donc Elo Asso, le pont aussi s'est fait très rapidement, je pense, avec les Bastiais. Parce que du coup, forcément, on essaye d'avoir
le retour d'expérience. Bien sûr.
Exactement. Ce qui est très important pour nous, la fédération, c'est avoir une boîte à outils pour justement faire en sorte que si un club est en difficulté, cette boîte à outils serve et qu'on puisse piocher dedans au fur et à mesure, en gardant son identité et en se servant de l'outil ou pas. Hein, parce que quand on a des outils à la maison, on sert que ceux qu'on a besoin, en fait.
Ouais.
Et comme je disais, le projet d'actionnariat populaire, il ne sera pas pareil à Sochaux qu'à Bastia, donc ils ont pioché dedans, voilà. Là, c'est pareil, donc l'utilité de la fédération est aussi là. Donc ils ont réussi vraiment à mobiliser très rapidement. Et une fois que le club il a été décidé avec M. Plessis notamment que l'actionnariat populaire allait rentrer au capital, ça a été exponentiel. On recherche tout le temps, nous, en termes d'actionnariat populaire, de la crédibilité. C'est la base de la base, c'est tout le temps être un acteur crédible. Être quelqu'un de reconnu, connu et reconnu comme quelqu'un de crédible et qui est là pour la pérennité de nos clubs. Une fois que ça a été validé, ça a été exponentiel. Une fois que le club vous décide, oui, effectivement, le projet verra le jour, on va dire tous les sceptiques qui disaient, vous êtes encore des doux rêveurs, on ne sait pas si ça va se faire, moi, je viendrai uniquement quand le projet verra le jour, là, tout de suite, ils foncent dessus.
Ouais.
C'est plus des promesses de dons, c'est des vrais dons, quoi.
C'était vraiment des... eux, de toute façon, ils avaient fait la levée de fonds.
Ouais.
Quoi qu'il arrive, ils avaient fait la levée
de fonds. Mais c'était le côté entre promesses de dons et dons. Tu vois, tu retiens un truc qui fait que, du coup, ils savent que ça va avoir
c'est
un
concret,
vrai impact.
Exactement. On n'est plus dans l'abstrait, on est dans la logique de concret et de réel. Cette notion de concret et de réel, en fait, c'est notre graal à nous. C'est-à-dire de faire comprendre que, justement, c'est concret. Je parlais tout à l'heure de la temporalité du projet Socio-Show qui leur a permis au final d'être crédibles très rapidement parce qu'ils avaient fait en 2016 et qu'ils avaient philosophiquement fait le projet Socio-Show à ce moment-là. Moi, je peux faire un pont avec un projet qui me tient encore une fois à cœur, qui est Socios Vert, évidemment. Nous, il nous a fallu 2 ans pour que les gens puissent nous reconnaître comme acteurs identifiables, fiables. Il nous a pas fallu, il nous a fallu 2 ans.
Ça a pris du temps.
Tu peux pas passer, tu peux pas faire l'économie de ces 2 ans, quoi.
Non, on peut pas, parce qu'en fait, il y a une structure qui est en train de se monter, qui est pas culturellement forcément établie. On se pose toujours les questions si c'est encore possible, pas possible. Il y aura toujours quelque chose. De toute façon, on aura toujours des tracteurs. Hein. Il y a 6 ans, on disait comme ça. Ah, vous êtes des rêveurs. Les sociaux, c'est n'importe quoi. Vous y arriverez jamais. Mmh. On n'a pas, de toute façon, juridiquement, c'est pas possible. Il y a Bastia. Maintenant on me dit, mais il n'y a pas de club de Ligue 1. Quand est-ce qu'il y aura un club de Ligue 1? Et peut-être qu'un jour, il y en aura un club de Ligue 1. Donc,
il y a peut-être la saison prochaine.
Peut-être la saison prochaine, qui sait, moi j'espère. et au final, avant, donc il y aura toujours quelque chose qui fera que... Et peut-être quand il y aura le club de Ligue 1, bah ouais, mais vous aurez un pouvoir limité, etc. Il y aura toujours des détracteurs. Et là, maintenant, on est quand même sur cette recherche de concret qui passe par cette temporalité pour faire connaître la structure, bien la faire sur des bases solides, saines, qui nous permettent après d'aller rencontrer tout un tas d'acteurs différents qui nous prennent au sérieux. Et sur recommandation, des fois. Donc, c'est très important, ça. C'est ce qui a permis, je pense, à Sochaux, cette mobilisation, au final, très tôt, philosophiquement, qui leur a permis, en fait, de réussir encore plus rapidement le projet, de basculer sur quelque chose, un sauvetage du club, très vite, très rapide et très sain.
Alors, et dans cette recherche et ce besoin de crédibilité, du coup, est-ce que on dessine des CV ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas chercher aussi de la compétence très particulière dans tes socios ? Tu as forcément les gens qui sont motivés par le projet, qui vont apporter leur énergie, quel que soit leur background, leur métier, etc. Mais est-ce que toi, tu as aussi besoin de dire, OK, moi, pour gagner en crédibilité, j'ai besoin d'avoir un mec très fort sur ce sujet-là, que ce soit finance, infrastructure, ce que tu veux ? Ou est-ce que ça se fait naturellement et tu fais avec les gens qui sont motivés ?
Alors, il y a deux choses dans ta question. La première, c'est...
Question à rallonge, à tiroir, c'est ma spécialité.
Non, la première question, enfin moi, que je vais te poser, c'est du coup sur un club sociétaire déjà, avec de l'actionnariat populaire ou pas. Parce que moi, par exemple, moi mon job, on va dire en tant que président d'asso, qui est encore au stade de projet, qui est encore associatif et qui travaille pas au quotidien avec un club. Moi, entre guillemets, nous sommes tous bénévoles. Donc la force, si tu veux, de frappe pour attirer du monde au bénévolat, elle est somme toute limitée parce qu'on travaille entre guillemets presque sur du vent, sur une promesse. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, on travaille avec ceux qui veulent bien nous rejoindre. Donc forcément, c'est totalement différent. Qu'un club qui a de l'actionnariat populaire. Là, vous allez tout de suite avoir des compétences qui vont se mettre en place. Et effectivement, tu peux te permettre, vu le nombre que tu vas avoir, de choisir tes compétences et de dire, bah, toi, est-ce que tu es motivé, par exemple, pour faire telle chose ? Et généralement, les gens se proposent d'eux-mêmes. Hein. Vous en faites pas là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ça va très vite quand le club il a accepté de l'actionnariat populaire. Sur la deuxième partie, ce qui est assez marrant, au final, c'est que... Donc, je parle pour ce que je connais. C'est que les compétences, elles viennent à toi et naturellement les choses se mettent en place avec des compétences qui sont tout de suite définies. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Faut pas oublier que nous on est associatif chez Socios Verts, donc qu'est-ce qui se passe, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire, parce qu'il faut que ce soit un plaisir de le faire, en fait. C'est de l'association pédagogique,
oui, c'est sur le bénévolat, etc. Ça peut pas être une contrainte.
Bah non, ouais. tu peux pas dire, bah ouais, je fais ça toute la journée, si en plus j'en fais le soir et puis j'ai pas envie, ça peut pas le faire, quoi. Et au final, ça se met en place naturellement, et les compétences, elles viennent à nous. Et comme, globalement, les gens qui sont vraiment très intéressés par l'actionnariat populaire sont un peu des CSP+, et sont un petit peu des cadres et des dirigeants d'entreprises ou d'entreprises publiques ou privées, forcément, les choses se mettent en place naturellement, en fait. Ils reproduisent un petit peu ce qui se passe dans l'association comme une société.
D'accord.
Donc, au final, tout se met en place naturellement d'un côté, et l'autre, t'as une telle masse qu'effectivement tu peux piocher. Et même des fois, je pense que les clubs peuvent dire, bah tiens, ce serait bien qu'un tel vienne nous donner un coup de main sur telle chose. Mais ça, ce qui est marrant désormais dans les dirigeants qui... Je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui font, on va dire, leur coming out de supporters de football. Ça, il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu... On lisait l'équipe un petit peu dans le... Ouss au foot.
Un petit cachet,
on se cachait un petit peu. On disait, tiens, là, maintenant, on est fiers. Ouais, maintenant, on est fiers d'être supporters du Paris Saint-Germain. On est fiers d'être supporters de Lens. On est fiers d'être supporters de Saint-Etienne, de Sochaux, de Beaumont, Bastia.
Ouais.
Et en plus, il y a ce côté... très marqué, j'ai l'impression, sur l'actionnariat populaire, d'être très fier, d'être encore plus fier. Ah, moi, je suis calme. Moi, je suis que rouge de Rouen. Ce club, il m'appartient un petit peu aussi, quoi.
Ah ouais,
c'est vraiment très identitaire, quoi. C'est marrant, ça.
Le football étant un domaine où tu deviens particulièrement territorial, je comprends que ça résonne complètement.
Alternative football. Alternative football.
Qu'est-ce qui fait que culturellement, c'était pas français du tout. Et qu'est-ce qui fait que c'est peut-être plus différent là où c'est culturellement en Allemagne ou culturellement en Espagne, pourquoi c'est pas du tout culturellement français et que ça va mettre un peu plus de temps en France qu'ailleurs et que ça se fait que dans les cas, enfin philosophiquement, est-ce que dans le rapport qu'on a au foot, est-ce que tu l'expliques
notre rapport au foot je pense que c'est en fait tout vient du législateur. À l'époque, dans les années 80, je crois que c'est début des années 90, on était avant des associations, c'était les clubs de foot étaient associatifs, et on est passé au fameux SASP. Et on a oublié les supporters. On a oublié les supporters. Comme je vous disais, les plus hautes instances dirigeantes, c'était pas tabou, mais c'était pas très bien vu. Ah, t'étais fan de foot, t'es un peu beauf.
Oui, c'est ça, mais t'as toujours ce procès en beaufrie des fans de foot. Ouais.
C'était un peu ça à l'époque. Et du coup, ben, le sport, un peu parent pauvre, on va dire, de la République, on va les mettre aux financiers, et puis ça ira bien, et puis vogue la galère, on verra ce qui se passe. Et on a oublié totalement l'aspect qu'en fait, un club de foot, c'est une marque, déjà. Ça, c'est le premier point. Et puis en même temps, c'est une marque sociale, ça aide socialement à l'intégration, ça peut aider même au niveau de l'échelle sociale, donc à grandir dans l'échelle sociale. Ça peut... Bref, on a oublié toute cette phase et on a tout mis au financier. Et on s'est dit, bon, faut que la galère, on verra bien. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des clubs qui ont coulé. Et puis, il y a eu des outils juridiques qui sont arrivés. Et ces outils juridiques, qui c'est qui reste quand le financier, entre guillemets, se casse la gueule? C'est les supporters, quoi. Ils sont là pour conserver ce que je disais tout à l'heure, la notion de bien commun. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en ayant ces outils juridiques, en ayant eu l'idée, c'est Luc Dayan notamment qui a eu l'idée, de se dire, attendez, regardez, le club est en difficulté, on est en galère, Bastia notamment, regardez, il y a les supporters qui sont capables de se mobiliser et de ramener un peu d'argent.
Comment les inclure juridiquement
comment on crée une structure? Comment on les rend? Il y a la SIC. Faites passer en SIC. Voilà, ça va l'aider à sa reconstruction naturelle, quoi. Ok, d'accord. Ok, c'est parti comme ça, en fait. C'est parti comme ça, et le déclic vraiment vient de là, en fait.
Du législatif, ouais.
Exactement, le législateur. Après, culturellement parlant, notre rapport au foot, comme je disais tout à l'heure, il est quand même particulier, parce qu'on aime bien que nos clubs, ils gagnent. En France, on n'aime pas trop être un loser, ouais. C'est vrai, on n'aime pas trop ça. Mais c'est en train d'évoluer, on est sur une culture foot qui progresse d'année en année. Alors ça va être long, moi on dit tout, il y a la fameuse phrase, il n'existe pas de culture foot en France, ou pas de culture... C'est faux, elle est la nôtre, c'est notre culture.
C'est pas celle des Anglais.
C'est pas celle des Anglais, c'est pas celle des Allemands, c'est pas celle des Italiens, c'est pas celle... Voilà, c'est la nôtre. Et elle évolue au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la culture foot en Italie, je pense qu'on se rappelle des années 90 de qui disait, qui disait les résultats. Il n'y avait pas que des choses bien. Il n'y a pas que des choses bien qui se font dans les cultures foot dans les pays étrangers. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on dit souvent que la France n'est pas un pays de foot. En fait, la France est un pays de foot français.
Tout à fait.
En fait, c'est l'éternel débat de l'identité. C'est-à-dire, oui, si t'as envie d'être un supporter type anglais, t'es pas dans le bon pays. Effectivement, on a beaucoup la culture du résultat en France, que les Anglais ont quand même un peu moins, et c'est lié à l'histoire, c'est lié à la composante sociale. C'est pas qu'on n'est pas un pays de foot, c'est qu'on est un pays de foot avec sa propre identité. Et je trouve que la différence est quand même importante. Parce que on a quand même une industrie du foot qui fonctionne, qui progresse, alors qu'il y a une marge de progression probablement supérieure à certains voisins. Mais qui a, tu vois, je trouve notamment dans les identités des clubs, on n'a pas grand-chose à envier, si tu veux, en termes d'implantation locale, du rôle social du club à nos voisins européens. Après, sur la performance sportive,
les infrastructures.
Les infrastructures, le remplissage, la relation aux supporters.
Exactement.
Il y a des marges de progrès, mais on a un football qui est le nôtre.
Il y a aussi la question du coup financière, parce qu'il y a plusieurs modèles de socios, tu le disais, moi je l'ai rajouté dans une de mes questions que je t'ai montré un peu avant. Il y avait un objectif, alors je ne sais plus si c'est chez les socios verts d'avoir un...
Heureusement que t'as pas dit chez les socios
que les socios verts, l'objectif de promesse de don, enfin vous vouliez aller à hauteur de 1 million Pourquoi ce chiffre-là et qu'est-ce que ça dit de comment on rentre, comment on pèse financièrement et comment on rentre au capital d'un club? Comment on peut rentrer, à partir de quel montant? C'est en fonction des clubs, mais c'est juste pour que nos auditeurs comprennent.
Ça sera défini avec chaque club, en fait, hein, avec chaque dirigeant qui vont nous rencontrer, et puis ce sera une négociation qui se fera avec eux. Voilà, ça c'est qu'on soit quand même. Après, comment on rentre, comment on définit, c'est pas tant le chiffre au final qui compte, c'est vraiment la structure philosophique et le nombre. Voilà, je pense clairement que le million d'euros, pour Socios Verts, hein, bien entendu, sera forcément dépassé à un moment donné si le club nous donne le top go. Je pense que si on a un dirigeant qui nous dit on vous veut au capital de la Saint-Étienne, un post sur Twitter, Insta et tout ce qui va bien, et ce sera exponentiel et on pètera les scores. Ça, c'est évident.
Mais dans ce chiffre-là, il y a quand même, le chiffre n'est pas choisi par hasard, mais... plus le chiffre est gros, plus ils vous entendent, plus le comité directeur va vous entendre, plus le club va vous entendre.
En fait, c'est pas tant le montant des promesses de contribution qui font que. Après, on a beaucoup de comme je le disais, on a beaucoup de patrons qui sont à l'intérieur de Socios Verts, qui sont membres ou alors qui sont contributeurs. Ce qui compte, c'est le nombre. C'est le nombre de supporters qui ont fait leur promesse de contribution, qui nous positionne comme un acteur important de la structure stéphanoise, en fait, ce qu'on appelle la tifosiera stéphanoise, qui nous disent voilà ce qui se passe, nous ne sommes pas un groupe de supporters, nous sommes des supporters qui veulent rentrer au capital, qui veulent travailler en tant que partenaire du club de la S Saint-Étienne, et nous sommes 3000. Voilà, c'est ça qui pose les bases. Après, le reste, c'est beaucoup plus simple quand on a un chiffre conséquent de nombre de contributeurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait votre promesse de contribution, n'hésitez pas à aller sur sociosvert.fr. C'est très important pour nous. Plus on sera nombreux, plus le potentiel, quand on nous donnera le top go, sera important et nous permet, nous, justement, d'avoir, lors de négociations, de dire, voilà, nous avons déjà cette base-là. Donc ça, c'est du concret, des personnes qui nous suivent, et nous estimons, parce qu'on est en train de recouper, notamment dans la boîte à outils, certaines choses, les statistiques, tout un tas de données statistiques entre ce qui s'est passé, le fameux retour d'expérience, et on peut estimer à tant de nombre de socios verts qui nous rejoindront une fois que vous nous avez donné le top go. Voilà, ça c'est important parce que ça nous donne du concret. Mais c'est pas tant le montant au final, c'est pas tant le montant, mais à peu près c'est vraiment la philosophie. La philosophie propre du projet, la philosophie de ce qui va se passer une fois qu'on sera au capital.
Ok.
Alors, tu parlais de volume de supporters, et du coup je vais mettre les pieds dans le plat sur le sujet, ou en tout cas le club qui m'intéresse le plus à titre très personnel, donc ça là c'est ma question.
Oula, je crains le pire.
Ouais, tu peux. Donc, et encore une fois, est-ce que plus le club est gros, et je ne veux pas dire que Sochaux, Bastia et Saint-Étienne ne sont pas gros, mais...
Attention à ce que tu dis.
Non, voilà, je ne veux pas dire que ce n'est pas des gros clubs, parce que c'est des grands clubs, mais plus le club est gros, c'est-à-dire plus un club a une capacité déjà financière importante, avec un actionnaire qui met beaucoup d'argent, qu'il a un réseau de supporters qui va de Los Angeles à Hong Kong, je vais retrouver le fil de ma question. Donc plus le club est gros, est-ce que c'est plus on va embaucher.
On dirait moi avec la question.
On dirait toi avec la question d'avance. C'est parce que j'arrive pas à organiser mes idées. C'est simple. Est-ce que c'est plus difficile de créer des socios au PSG de par la taille du club, le type d'actionnaire, le nombre de supporters? Est-ce que ce type de club est plus difficile à amener autour de la table?
Ben, je pense que c'est la philosophie propre de ton actionnaire qui définira au final sa mentalité et sa motivation.
D'accord.
C'est là on est sur un on est sur un club état.
Ouais.
Donc c'est totalement différent de ce qui se passe on va dire au niveau presque patrimonial en fait. On parlait tout à l'heure de franchise, de ce qui se passe en termes de franchise.
Ouais.
Je pense que le Paris Saint-Germain est devenu une franchise. titre personnel. Ce ne sont plus un club français.
Mais c'est l'objectif. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est là où c'est aussi ma question. C'est, en tout cas, c'est l'objectif de l'actionnariat.
Voilà. Donc, on est sur un rapport qui est finalement totalement différent de ce que nous on porte. Ils sont presque dans une dimension parallèle, en fait, au sein du football français. Après, je sais qu'il a existé à un moment donné une réflexion sur justement de ouvrir l'actionnariat populaire à un moment donné au Paris Saint-Germain.
Ouais, je le confirme.
Je vais être très franc, je ne connais pas du tout la structure de comment ils avaient imaginé. Je crois que c'était à l'époque de M. Bazin, c'est ça?
C'est le cas, ouais.
C'est le cas. Hein. Je pense que c'est, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal au Paris Saint-Germain d'avoir... Alors là, ce que je vais dire, ça va peut-être être un petit peu bizarre, surtout maintenant au niveau de la mondialisation, d'avoir des supporters, on va dire, locaux. Alors, comment on définit un supporter local? Ça, c'est une bonne question.
Tu vas rentrer dans mon terrain. Je sais, pour moi, le supporter local, les frontières sont assez fermées.
Alors, pour moi, je vais te donner ma définition.
Vas-y.
Hein. Pour moi, supporter local est français. Voilà. Je parle pour du pays qui existe en France. Bon. Parce que maintenant, à l'ère de la mondialisation, je parlais des distances qui sont totalement disproportionnées maintenant. Comme tu dis, hein, tu peux te reconnaître en tant que fan du Paris Saint-Germain en habitant à Hong Kong, Shanghai ou Singapour, voire Melbourne. Donc voilà, pour moi, ceux qui font quand même une vraie valeur ajoutée, culturellement parlant, au club qui existe sur notre territoire, est quand même... culturellement français, parce qu'il va comprendre les tenants, les aboutissants de certaines choses qui se sont passées, notamment au niveau du club. Ce que pour moi, alors même si, encore une fois, la mondialisation fait et que du coup, il y a une certaine, on va dire, globalisation des mentalités un petit peu partout, notamment en termes d'occidental, là, on est en train de passer sur quelque chose qui, pour moi, identitairement, je pense que c'est très important d'être du pays qui...
Tu sais que moi, je vais beaucoup plus loin que toi.
Ah ouais, tu vas sur la ville, toi. Ouais. Supporter local team à fond.
Moi, je vais sur la région.
Enfin, toi, tu vas sur la région. Ouais, c'est-à-dire que pour tu moi... pourrais pas être supporter des Verts, selon lui, par exemple.
Ouais.
Du coup, il va plus loin.
C'est là où c'est paradoxal avec j'embrasse le sport business de manière générale, c'est mon métier, etc.
Ouais.
Mais ma philosophie de supporter, même si c'est pas le débat...
Je pense que c'est un débat qui est parallèle, en fait.
Ouais, je suis d'accord avec ça. De toute façon, national, faut au moins s'arrêter à ça, parce que si tu me lances sur les mecs qui habitent à Vitry et qui sont barcelonais, là, on finit pas l'émission. Mais pardon, Maxime.
C'est un autre débat. Mais de toute façon, il nous reste du coup 10 petites minutes. Est-ce que c'est quoi les bonnes pratiques à aller chercher, les belles histoires, les belles anecdotes? C'est une question que je t'ai un peu soumise avant. Mais pour faire la pub du modèle de l'actionnariat populaire, les bonnes pratiques que tu as pu voir, que ce soit en France ou en Allemagne ou ailleurs.
Bah, les belles pratiques, je pense que des belles histoires déjà, c'est nos clubs, enfin nos structures sociales qui ont réussi à sauver les clubs en fait. Si on regarde de manière vraiment binaire, on va dire réussite par réussite, voilà, tac tac. Bah action réaction en fait. Bastia ils sont montés, ils ont sauvé le club.
Ouais, c'est ça qui est important. Ouais.
Sochaux ils ont monté. Ils sont sauvés. Tu vois ce que je veux dire? Tac, tac. En fait, action, réaction. Ça, c'est déjà la base même, c'est la belle histoire, en fait. C'est que grâce au soutien et à la force de frappe, à la force de mobilisation, à ce qui identitairement représente le supporterisme, ils ont réussi à sauver nos clubs de foot. Voilà, factuellement. À terme, vu les difficultés financières sur certains aspects du football français, il faut se préparer à préserver cette sorte de bien commun qu'est le club de foot, hein, on en revient toujours à la même notion de bien commun. Donc, nous, notre rôle à la fédération, c'est justement de faire qu'il y ait d'autres belles histoires qui existent pour justement être dans ce rapport assez binaire, action-réaction, on sauve le plus rapidement le club. Ensuite, bien entendu, il y a d'autres belles histoires qui sont montées au fur et à mesure. Moi, quand je vois les gamins Bastiais avec, en gros, sponsor sociaux, c'est toi le club Bastiais, je me dis, ah, c'est génial, quoi. C'est génial. Le gamin, permettez-moi de penser que le gamin, il va porter sur son ventre. Déjà, il a l'honneur de porter l'écusson du Sporting Club Bastia. Et en plus de ça, il va porter le sponsor qui est le Sosso de l'Épaule Club Bastia. Et je trouve ça absolument extraordinaire comme vecteur de dépassement de soi. Je pense que ça donne une âme supplémentaire à se dire, bon, ok, je joue dans un club déjà qui est grand, mais en plus de ça, voilà, je joue pour eux, quoi. Et ça, c'est beau. Ça, je trouve ça beau, ouais. quoi. Après, il existe d'autres modèles en Europe qui existent. Il y a eu le cas de Portsmouth qui a sauvé le club ouais. passé un temps, à un moment donné, qui vient remonter en Championship. Tu vas avoir, par exemple, Wrexham, à un moment donné, aussi. Wrexham, était, ouais. Donc là, c'est ouais. sur Netflix, en ouais. plus. On ouais. voit au début le Trust, ouais. hein, le Trust qui, ouais. vend, qui vend le club, du coup. Ouais. Comment c'est les noms, déjà?
Je me souviens Ryan Reynolds voilà. et... putain, l'autre, j'oublie.
Bah, c'est Deadpool, pour moi.
Ouais. C'est ça, c'est et l'autre qui joue dans la série sur film.
Voilà, on les voit vendre. Et puis après, bah, derrière, il y a, aussi United of Manchester.
Ouais.
Ça, c'est incroyable aussi. Ouais. Voilà, on n'est pas d'accord. Ok, très bien. C'est très à l'anglaise, hein, un peu ouais. binaire, comme je disais tout à l'heure. Action, réaction, on n'est pas content. Ok, on fait un club de foot. Bon, d'accord.
C'est incroyable. Rob, Mac,
ouais.
Elleney.
Ouais.
Voilà.
Qui est un acteur de série. Mais en fait, le point que je trouve particulièrement intéressant dans votre démarche, et c'est peut-être ce qui fait que ça fonctionne et que, comme tu le dis, comme disent les Anglais, tu as un track record, tu vois, de choses qui ont marché, c'est qu'on a souvent opposé foot business, en tout cas l'économie, et le côté romantique du supporter. Alors qu'en fait, ça se nourrit, faut que ce soit peureux, l'un vit avec l'autre, et les supporters, on l'a beaucoup évoqué avec Nicolas, et c'est aussi un combat qui m'est cher parce que je viens de là. Enfin, les supporters sont pas des Mongols. Tu vois, et c'est pas parce qu'ils aiment un club qu'ils se disent que c'est simplement le fait de chanter fort torse nu qui va faire que le club soit structuré, et fonctionne. On a l'impression, en fait, qu'en structurant cette approche-là, t'arrives à mettre les bons acteurs autour de la table, t'arrives à être, toi, en tant que supporter, un acteur crédible, et que tu t'associes à un projet club dont t'es partie intégrante et auquel t'apportes, que ce soit sur le volet social, sur le volet structuration. Parfois, alors j'aime aussi l'idée que t'évoquais au début, de dire que bah, le sportif, il y a des gens qui sont chargés de s'en occuper, exact. Et que c'est peut-être là que ça devient dangereux quand tout le monde veut recruter machin.
Je pense qu'il faut vraiment délimiter les pouvoirs, ouais. c'est très important. Ouais.
Hein. Et surtout sur la partie sportive, qui est pour le coup hyper particulière, et c'est celle qui déchaîne les passions, et quand t'as un peu de passion, du coup, en général, t'es moins froid et tu prends moins bonnes décisions. Donc non, c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant de t'avoir et d'avoir l'explication de cette démarche-là, parce que pour le coup, c'est je pense la rencontre de l'ensemble des acteurs du foot vraiment. Et puis on prend souvent cet exemple-là, mais tu vois l'influence. Encore une fois, on peut pas faire sans le business dans le foot aujourd'hui. Mais tu as 2-3 exemples récents qui nous montrent que tu peux pas faire sans les supporters non plus. Tu vois, la réaction populaire à la Première Ligue, Super Ligue, c'est quand même un petit rappel de dire oubliez pas que les gens qui vont au stade ou qui achètent l'abonnement Prime, Canal+, Bein Sport, j'ai dit tout le monde, Free, donc pas besoin de prendre l'abonnement. tu vois, c'est à eux que vous parlez, il faut quand même continuer à les satisfaire.
Mais c'est aussi à nous, dans un sens aussi, de faire comprendre que justement ce côté pour eux, il faut l'avoir. Il y avait le fameux... À l'époque, hein, il y avait le fameux les supporters supportent, les dirigeants dirigent. Voilà, c'était très comme ça. En gros, voilà, ça c'est le maintenant ça n'existe plus en fait. Mais même dans la société de tous les jours, maintenant on est de plus en plus dans une société participative et constructrice et collaboratrice, collaborative,
ouais. Hein,
c'est mieux, c'est plus français et collaborative. Et du coup, forcément, c'est quand même très important de faire que ce pour eux. Et en plus, c'est vraiment être un partenaire et puis essayer de faire de la valeur ajoutée. Ça, c'est important, ça, la valeur ajoutée au final. Moi, je trouve, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné la maman de Kylian Mbappé qui disait donne-moi 50% de ton salaire et tu vas voir.
Spécial.
Ouais, envoyé spécial, je vais t'apporter, porter une vraie valeur ajoutée. Bon, elle a donné 30%, quel radin. Ouais. Mais,
Il est bon en égo, hein. Il aussi, Kiki. Ouais.
Mais du coup, en fait, c'est un peu ça au final.
Ouais.
C'est un peu
bien
ça,
sûr.
Parce que sa fondation, elle aide aussi les gens, mais en fait, il lui apporte une vraie valeur ajoutée pour la marque Kylian Mbappé. Et ben nous, en fait, c'est un peu ça au final. C'est de faire en sorte que oui, on peut faire du bien et en même temps, on peut aider à la collaboration avec nos clubs.
Et à la marque.
Totalement partenaire.
C'est vrai,
une valeur ajoutée à la marque.
À la marque Saint-Etienne, à la marque Sochaux, à la marque Bastia,
exactement.
À la marque
Guingamp, à la marque Rouen, bientôt à la marque Nîmes Olympique, à la marque.
À Nîmes, ils ont besoin.
Nîmes, voilà. Ils sont en train de se mobiliser, ils vont faire une collecte, d'ailleurs, bientôt, très prochainement.
Ouais.
Donc, Rouen aussi, qui est en difficulté, donc il faut rester bien attentif aussi, si vous êtes rouennais, à regarder ce que vont faire les fédérations de l'écu rouge. en lien avec la tifosière arouanaise, donc c'est important aussi. Donc voilà, du coup, ça, toute cette porosité, comme tu me le disais tout à l'heure, c'est justement le pont entre les deux. Et ben, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aider notre marque. Comme tu disais, on n'est pas des neuneux. Ouais. On montre très bien que plus notre marque, elle est belle, elle resplendit à l'international, même au niveau national déjà. Et ensuite, à l'international, plus on sait que ben, on aura les meilleurs joueurs. Parce qu'on sait que maintenant, ben, on sait très bien que le financier, il y a un rapport entre financier et qui arrive au niveau de nos clubs de foot, qui arrive en tant que transfert. On n'est pas bête. Hein.
Vous, votre objectif, c'est d'aller chercher Timothée Chalamet. Il faut que Timothée Chalamet, il aille chez les Socios Verts. Et s'il débarque chez les Socios Verts avec son portefeuille...
Timothée, si tu nous entends. Timothée, si tu nous entends, rejoins-nous. Je sais que tu as nos contacts. Ouais. Je sais que tu as nos contacts, donc n'hésite pas à contacter Sébastien. Voir ton papa qui connaît très bien Sébastien. Donc surtout, n'hésite pas si tu as besoin, Timothée.
Mais ça pourrait bien aider. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fédération ou aux Socios Verts dans les prochains mois? Ou est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais pendant ces deux dernières minutes nous suggérer?
Non, j'ai pas forcément de thème. Moi, ce que je souhaite à la Fédération, c'est qu'elle grandisse. Que nos plus hautes instances politiques, et je pense qu'ils comprendront tout de suite l'intérêt qu'on a justement de préservation de ce bien commun, qu'ils nous reçoivent et qu'elles grandissent le plus bel possible et qu'elles s'agrandissent avec les autres sports, parce qu'on a reçu dernièrement un club de rugby, enfin un membre d'associatif de club de rugby, et puis pour Socios Verts bien sûr, une belle vente de l'AS Saint-Etienne avec au capital aux côtés du nouvel actionnaire Socios Verts qui puisse donner un vrai élan marketing financier et puissant pour l'AS Saint-Etienne, pour son bien-être, parce que nous, en fait, si on travaille là-dessus sur le développement propre de nos structures associatives au sein de Socios Verts, c'est vraiment pour aider in fine le club, parce qu'on pense que vraiment que c'est une bonne chose pour l'AS Saint-Etienne, que c'est aussi la faire passer plutôt dans l'univers 2.0 de ce qu'est devenu le foot et la société d'aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait votre promesse de contribution, c'est important. C'était l'instant pub. Sociosvert.fr. Et puis bien sûr, voilà, nous retrouver sur tous les supports LinkedIn, Fédération des Socios de France et Twitter X.
On dit X maintenant. Ouais.
Voilà. Merci d'être venu aussi loin.
Merci beaucoup.
T'es pas de Saint-Etienne, mais tu viens de...
Moi, je viens d'à côté de Bourges, à côté de Saint-Amand-Montrouron. Voilà.
Merci d'être venu. C'est moi.
Merci beaucoup de l'invitation.
Un plaisir de t'avoir pour un super sujet.
Qu'est-ce que doivent faire nos auditeurs qui l'ont pas déjà fait?
Ils doivent faire. C'est exactement ce que tu viens d'évoquer. Nous retrouver sur les différentes plateformes, donc les mêmes que celles que tu viens de citer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des likes sur toutes les plateformes d'écoute. Je ne vais pas les citer, sinon je vais en oublier. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des invités, des gens que vous avez envie d'entendre. Jérémy était là aujourd'hui parce que c'est Didier Poulmer, qui était un précédent invité, qui nous a suggéré de te recevoir. Donc voilà, on est très très ouvert à vos suggestions. Et puis voilà. À très vite. On embrasse Monsieur Cissé, ouais. Et puis on le retrouve au prochain épisode.
Ciao ciao.
À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.